écoute sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue dans I Feel Good. Comme d'habitude, 30 minutes pour profiter des ondes positives d'un invité. 30 minutes qui fait toujours rayonner par son savoir-faire, par son savoir-être, par ce qu'il est. Et qui fait toujours rayonner aussi notre territoire. Et vous le savez peut-être, mais le Grand Nancy va accueillir un congrès national du Conservatoire d'espaces naturels. C'est cette semaine à Nancy. Et nous avons la chance depuis une vingtaine d'années d'avoir un super président. En tout cas, c'est ce que l'on m'a soufflé à l'oreille. Et j'en profite pour faire un gros bisou et une grosse salutation à Laurence Vizère pour la dévoiler. Et elle m'a dit, il faut absolument que dans I Feel Good, tu reçoives le président du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Il s'agit de Monsieur Alain Salvi.
So good, so good, I got you.
Alors, je vous présente comme si ça allait être la foire, alors que vous êtes quelqu'un de très posé.
On essaye, oui, oui, hein? Oui. On essaye d'être posé malgré les événements qui s'annoncent, quoi, qui vont être quand même extrêmement un peu stressants. Mais enfin, tout est prêt, quoi. Hein, tout est prêt pour recevoir nos invités qui vont venir de toute la France. Et tout est prêt parce qu'on l'a annoncé l'année dernière, le précédent congrès qui a eu lieu à La Rochelle, où le président que je suis s'était déguisé en Saint-Nicolas pour annoncer ce congrès qui se tiendrait à la Saint-Nicolas à Nancy. Donc ça laissait des souvenirs. Et là maintenant, ouais, je crois que tout est prêt et le stress peut retomber. Un peu la séance d'ouverture parce qu'on va recevoir les personnalités qui nous soutiennent. Mais je pense que les choses devraient bien se dérouler.
Un bon dossier, la sérénité, elle va parce que la préparation est bonne. On vous sent tout prêt là. Qu'est-ce que c'est qu'un conservatoire d'espace naturel ?
Alors un conservatoire d'espace naturel, c'est une structure associative. J'insiste sur associative parce que la loi nous l'impose et au demeurant, on en est très satisfait. Et l'objet des conservatoires d'espace... Donc il y en a un par région, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des régions regroupées, d'autres qui ne le sont pas, suite à la réforme territoriale. Bon, nous, on reste Lorrain et puis il y a un conservatoire en Alsace, il y en a en Champagne-Ardenne, mais enfin, on travaille très très étroitement ensemble. Donc un conservatoire d'espace naturel en France, c'est une structure associative qui s'occupe de la protection et de la gestion et de la mise en valeur des milieux naturels les plus remarquables. Quand on dit protection, c'est la protection pas par la voie réglementaire, puisqu'on n'a aucun pouvoir réglementaire, mais par la voie, on va dire, contractuelle. Soit on achète les terrains qui nous semblent intéressants, et quand on trouve les moyens pour les acheter, soit on les loue sur des longues durées, et sur ces durées, eh bien, on met en place une gestion biologique avec des experts scientifiques qui nous expliquent l'intérêt de ces terrains, comment maintenir leur qualité écologique, comment la développer, et ensuite, dans une dernière étape, quand ces terrains sont bien maîtrisés, qu'on les connaît bien, qu'on les comprend bien, on en fait le plus souvent soit des laboratoires à ciel ouvert pour les universitaires, soit des lieux de découverte pour le grand public, les scolaires, etc. Hein, c'est-à-dire des visites guidées, des sentiers botaniques, des sentiers de découverte, de façon à ce que nulle part on puisse dire que cette nature, elle est confisquée et mise sous cloche.
Alors de plus en plus, on les voit, ces espaces, on peut les parcourir aussi.
On peut les parcourir, bien sûr.
Qui fait toute la pédagogie dont on a besoin, parce que sinon, on pourrait dire, mais attendez, vous allez nous mettre sous cloche tout notre foncier rural, on va dire, ou périurbain, on va plus pouvoir y toucher, on pourra plus rien y faire. On a aussi besoin de l'agriculture, de la transformation, de faire des zones d'activité. Comment on épouse tout cela ? Comment le président que vous êtes depuis une vingtaine d'années dialogue pour réussir à tenir tous ces bouts du vivre ensemble, tous ces bouts de la société? Vous l'avez dit, on n'est pas là pour dans l'aspect réglementaire. Il y a des lois qui fixent des programmes d'urbanisme, des SCOT, etc., des schémas régionaux. Comment vous mesurez, comment vous posez la bonne mesure?
Alors, tout ça, ça passe et ça tient énormément au fait qu'on a décidé de travailler par la voie contractuelle. Et vous ne pouvez faire des choses que si autour d'une table, tout le monde s'organise et se met en accord pour développer un projet. Alors le patrimoine naturel, même s'il y en a un petit peu en ville et dans les périphéries des zones urbaines, il est quand même essentiellement en milieu rural. Donc on s'exonère déjà un petit peu, c'est pas toujours le cas, des pressions, on va dire, urbanistiques et des pressions d'aménagement du territoire un peu trop violentes, quoi. Même s'il peut arriver qu'une route imprévue se dessine par là ou je ne sais quoi. Hein. Et là, eh bien, on va aller se mettre en dialogue avec l'ensemble des acteurs du territoire, en commençant par les premiers, qui manifestent en ce moment beaucoup, ce sont les agriculteurs. Puisque évidemment, beaucoup de ces terrains sont des terrains qui ont encore une certaine vocation agricole. Pas tous, hein. En forêt, c'est pas le cas. Un marécage non plus, un étang non plus, une tourbière non plus. Mais des prairies, par exemple, sont des milieux qui ont conservé un intérêt agricole. Et si vous mettez les agriculteurs à dos en arrivant, je pense que vous pouvez repartir avec votre projet bien plié dans vos cartons. Donc l'idée, c'est de prendre des contacts construits avec eux, de comprendre leurs problématiques et de voir dans quelle mesure les nôtres et les leurs peuvent se rencontrer pour pouvoir développer le programme.
Ça veut dire qu'une activité agricole peut
absolument
perdurer.
Voilà. Chaque fois que le terrain peut continuer à avoir une activité agricole, on le fait, et on le fait systématiquement avec les agriculteurs locaux. Souvent, d'ailleurs, c'est l'agriculteur qui gérait préalablement le terrain, qui reste en place. Simplement, on va mettre en place un cahier des charges, qui va lui donner quelques prescriptions de gestion, et en contrepartie, s'il perd un petit peu en termes de productivité, on va chercher à compenser ça financièrement, soit par une baisse de loyer, soit par des mesures qu'on va aller à mobiliser, ce qu'on appelle les mesures agri-environnementales. Et donc, par exemple, notre agriculteur va faucher plus tard, donc son foin va perdre en qualité, mais il va être compensé financièrement pour cette perte de qualité. Et ça, ça marche bien. Enfin, moi, il me semble, hein, moi, ça fait maintenant, en Lorraine, ça fait 40 ans qu'on pratique ce genre de choses. Ça marche plutôt pas mal. Simplement, faut effectivement respecter ses engagements. Et parfois, c'est vrai que les compensations, quand elles arrivent de l'État, par exemple, arrivent des fois en retard. Et les agriculteurs, des fois, ça grippe un petit peu le système.
Ça manque de dialogue. Là.
Voilà. Ouais, voilà. Ouais.
Tout ça pour dire que c'est pas forcément une mise sous cloche du patrimoine. Je fais un comparatif justement avec le patrimoine architectural où de temps en temps on dit on ne peut plus toucher parce qu'il y a une mesure de protection, c'est pas tout à fait comme ça.
C'est pas comme ça que ça se passe.
Ni dans le patrimoine d'ailleurs architectural, ni dans l'espace naturel.
Quoi. Oui, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'autant que si vous voulez, quand par exemple une commune nous confie une pelouse calcaire ou un bout de rivière ou quelque chose comme ça, souvent la commune, quand elle nous confie ça, elle nous dit mais on aimerait bien que ça serve à notre école, à nos écoliers, etc. Et donc, on va construire ça. Hein, on voudrait bien que nos habitants puissent continuer à aller se promener, ben, bien évidemment. Et donc, on construit des itinéraires de promenade, des fiches, des topo-guides, des choses comme ça, qui vont permettre aux gens de faire de la découverte un petit peu plus approfondie, parce que très souvent, le patrimoine qui est à leur porte, ils n'en ont pas forcément une connaissance précise, quoi. On leur fait découvrir qu'il y a des orchidées chez eux, ah bon, on ne savait pas, etc. Enfin, bon, c'est passionnant. Et ça ne fait pas du recrutement. Enfin, ça fait du recrutement, non pas au sens adhérent, mais ça fait du recrutement dans les problématiques qui sont les nôtres et dans les problématiques de protection des milieux, quoi.
Quelques exemples dans le secteur, on a une radio du Sud Meurthe-et-Moselle, quelques endroits où on peut se balader, où vous nous conseillez de nous équiper de notre topo guide.
Si. Alors autour de Nancy, vous pouvez aller sur la butte Sainte-Geneviève à Essel-et-Nancy, ça c'est un site du conservatoire, il y a des sites également de la métropole qui sont gérés par la métropole ou par le département, le plateau de Malzéville, le vallon de Bellefontaine, et puis moi sinon si vous voulez vraiment un très très très, très beau site, pour moi c'est un des plus beaux de Lorraine, c'est la vallée de la Moselle sauvage, donc pas très loin de Bayon, entre Bayon et Charmes. Alors Charmes c'est les Vosges, mais les trois quarts du site c'est en Meurthe-et-Moselle, et c'est vraiment un milieu tout à fait extraordinaire parce que c'est le seul endroit sur le cours de la Moselle où sur 12 kilomètres vous n'avez pas eu de carrières qui ont été creusées, vous n'avez pas eu de digues qui ont été construites, et donc on appelle ça la Moselle sauvage parce qu'effectivement elle a encore cette possibilité de divaguer comme elle veut dans son lit, et c'est vraiment c'est de toute beauté. Je pense qu'il y a des saisons où c'est plus joli, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, on a des grandes plages de galets, etc. Enfin, moi, je vous invite vraiment à... Et c'est pas loin de Nancy, et maintenant...
Alors, Moselle sauvage, c'est entre Bayon...
Entre Bayon et Charmes, dans les Vosges, quoi. Chamagne, oui.
Qu'est-ce que c'est beau, là-haut.
C'est très, très beau. C'est très, très beau. Et c'est une belle histoire aussi. C'est un programme qu'on a réalisé à la fin des années 90. Et figurez-vous, moi, je tiens toujours à le dire, que la réussite de ce programme, au départ... Elle a tenu à une personnalité qui était le préfet de Meurthe-et-Moselle de l'époque, qui s'appelait le préfet Claude Irignac.
Voilà. On le retrouve encore là.
On le retrouve encore là, et c'est lui qui, à un moment, a posé un cadre, a été convaincu. Alors, on parle de choses qui sont passées il y a plus de 30 ans. Hein, on n'est pas dans la mode de l'écologie encore qui est arrivée après. Mais il y a plus de 30 ans, donc le préfet Irignac a posé un cadre qui nous a permis de protéger ce secteur. Après, on a construit des programmes, on a été chercher des sous. Mais si lui, avec son autorité, avait pas posé ce cadre-là, je pense qu'on aurait ramé pas de le dire, pour arriver à protéger ce bout de rivière. Donc moi, je tiens vraiment, 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 chaque fois que je parle de cette réserve,
évoquer on prend la sortie à Porcieux, là. On prend Porcieux, et on prend la route et on rejoint la Moselle. Là, ouais. Et à partir de là, on peut se balader tranquillement.
Ah oui, c'est
on
vraiment.
On peut poser la voiture. Ouais. Et...
Alors, il y a les endroits où il y a.
Alors, c'est pas trop la saison.
C'est pas trop la saison parce que la Moselle, voilà. Elle monte et elle descend. Il faut se renseigner avant.
Qu'est-ce qui fait votre joie d'être. Parce que si vous en avez pris pour un certain nombre d'années, plus de 20 ans, qu'est-ce qui fait votre joie d'être président de ce conservatoire d'espaces naturels?
Alors, il y a plusieurs éléments.
Lorraine.
C'est de voir se construire ce réseau d'espaces protégés. 8000 hectares, 400 sites. Alors, 400 sites, ça fait beaucoup. 8000 hectares rapportés à la surface de la Lorraine. Bon, voilà. Mais enfin, bon. Et ça veut dire qu'on a réussi en quelques décennies à construire un réseau protégé qui sert, un réseau démonstratif, et qui j'espère, permet de faire cultiver, enfin, de faire progresser les ondes positives que j'essaye de transmettre. Et ça, c'est de voir la construction du réseau, c'est déjà enthousiasmant. Et un deuxième aspect, c'est aussi le recrutement. On a une équipe importante, 70 salariés.
70
salariés, c'est une grosse équipe. Et parmi ces 70 salariés, l'essentiel, ce sont des gens très jeunes, très bien formés, très motivés, et leur enthousiasme fait plaisir à voir. Et tant qu'on aura une équipe comme celle-ci, et tant que l'âge me le permettra, je resterai mobilisé pour les accompagner.
Ça
avec
veut
plaisir.
Dire que, du coup, je rebondis, parce que 70 salariés, il faut les rémunérer.
Ouais.
D'où viennent les finances?
Alors les finances, les collectivités, 98% des finances du conservatoire sont des finances d'origine publique. Les collectivités, la région, avant c'était la région Lorraine, la région Grand Est a pris le relais sans difficulté, les quatre départements, chaque département avec ses modalités particulières, bon ça, il n'y a pas de problème, l'État, notamment le Fonds Vert, dont on...
discute pas mal en ce moment, ouais.
Ouais, ouais. Et puis les agences de l'eau. Et l'agence de l'eau Rhin-Meuse, chez nous, puisque c'est celle qui a pratiquement autorité sur presque toute la Lorraine, est particulièrement mobilisée depuis très longtemps sur la protection des milieux. Et on trouve un peu d'argent privé, alors on essaie de le développer parce qu'on voit bien que l'argent public devient de plus en plus difficile d'accès, hein, et c'est vrai dans tous les domaines, et on essaie de développer un petit peu des opérations de mécénat avec... Mais c'est pareil, quand on fait de l'écologie, on peut difficilement accepter des mécénats de tous ordres. Vous voyez, Total, par exemple, dans mon conseil d'administration, si on avait une proposition de Total, il y aurait débat. Je ne vais pas le trancher ici, le débat. Mais c'est... Donc, pour le moment, on se concentre sur du mécénat qui pose pas de problème éthique, quoi.
Alors mais justement, ouais. J'allais vous poser la question, mais où est le militantisme dans le conservatoire?
Alors,
parce que vous l'avez dit tout au début,
ouais.
Avec force, on est association et on tient cette modalité-là, voilà. Donc, en quoi vous y tenez? En quoi il y a militantisme? Est-ce qu'il est politique?
Ouais. Alors, on a souvent dit dans les conservatoires qu'on n'était pas des structures militantes, comme le sont d'autres, par exemple la Ligue pour la protection des oiseaux ou France Nature Environnement, etc. Hein, nous, on est militants de la nature, et moi, je tiens quand même à insister là-dessus. Si vous voulez pouvoir vous entendre avec l'agriculteur du coin, le chasseur d'en face, le pêcheur à la ligne, les promeneurs, etc., vous ne pouvez pas vous enferrer dans des postures qui vont repousser les partenariats. Vous êtes obligé de composer avec eux et de voir qu'est-ce qu'on peut construire avec eux. Et quand on construit ensemble autour d'une table et avec un peu de temps, on arrive au bout de nos souhaits et très souvent ça marche bien. Donc c'est un militantisme, on va dire, militant de la nature et militant de la concertation. Voilà.
Alors derrière la concertation, j'ai le sentiment, mais vous me dites si je me trompe, qu'elle s'appuie aussi sur le savoir, la culture scientifique.
Oui, c'est ça. Hein, si vous voulez, on protège pas un terrain parce que c'est à côté de chez le président. Voilà. Alors ça m'arrangerait, mon jardin serait mieux tenu qu'il ne l'est. Mais bon, non, parce que en fait, les sites remarquables de Lorraine sont bien connus. Ils sont, enfin, bien connus pour l'essentiel. On en découvre encore. Hein, ils ont été identifiés, ils ont été répertoriés dans des inventaires. Ça depuis le début des années 80. Et ces inventaires nous servent de support pour développer nos actions. Après, nous avons aussi une équipe scientifique qui se balade. Enfin, j'espère qu'ils font pas que se balader. Parce qu'ils sont payés pour ça quand même, voilà. Mais qui effectivement écume le territoire et qui repère des endroits qui n'auraient pas été identifiés. Et on a un conseil scientifique, ce sont que des bénévoles, des universitaires pour l'essentiel, qui valident préalablement nos actions, c'est-à-dire où on va, qu'est-ce qu'on y fait, et puis qui vont presque à dire, non pas quels moyens on y met, mais où les moyens sont prioritaires par rapport à d'autres. Quoi.
Ça veut dire qu'on y met de la thèse, du thésard, de la recherche.
On a des thésards, on a des salariés qui s'engagent aussi dans des thèses pour en savoir davantage et se former davantage. Ouais, c'est vraiment, moi, c'est une pépinière véritablement scientifique avec des vrais partenariats avec certains laboratoires universitaires.
On n'en a pas beaucoup parlé de cette pépinière scientifique, mais on va y revenir parce qu'on va parler un peu de votre parcours maintenant, Alain. Et on l'a senti derrière l'engagement, il y a aussi de la poésie, il y a aussi du dialogue. Il y a un homme que vous aimez qui enchante par les mots, c'est Alain Souchon.
Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et des dames qui pensent dans leur cuisine. Elle pense aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin les Anglis et Rouen derrière et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut.
Le terrain en pente, Alain Souchon dans I Feel Good.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
D'un Alain à l'autre, de Souchon à Salvi, donc il y a plein de points communs aussi. Pourquoi ce choix très poétique ?
Alors, Souchon, parce que je trouve qu'entre la poésie et le sens mélodique, il y a toujours des petits clins d'œil à l'écologie. Et puis,
je la voyais bien, la vieille déchetterie.
Ouais, on la voit. Ouais, c'est très, très net. Hein.
Ça, c'est vraiment pour les plus âgés, on va dire.
Oui, voilà. Ouais.
Le monde a changé quand même.
Monde a changé. Le monde a changé, d'ailleurs, il le chante aussi. Ouais. Le monde change de peau. Et je trouve aussi dans Souchon, mais depuis très longtemps, en quelques mots, en quelques phrases, il vous décrit un état des lieux comme on en lirait dans une étude de Jérôme Fourquet, comme on en lirait dans un livre de Nicolas Mathieu. Voilà. Mais eux, au lieu d'en faire 300 pages, Alain Souchon fait un petit couplet qui tout de suite vous renvoie cette image-là. Et je trouve ça, avoir ce pouvoir, je trouve ça magique.
Ouais, alors le Nicolas Mathieu, il a même quand même pas tout à fait l'art quand même de faire le dialogue. Hein.
On en profite pour le saluer, le pépère.
Avec plaisir, oui.
Alors là, pardon Alain, je reprends mon sérieux, mais je pense un peu à Nicolas Mathieu, c'est pour ça. Oui, alors, mais justement, je reviens à Alain Souchon. À travers cette chanson-là, on voit bien que la prise environnementale, la prise écologique, plus d'ailleurs, dans ce cas précis, elle respire dans notre société. Je prends un exemple. De nombreuses expériences d'engagement d'étudiants aujourd'hui, même au niveau entrepreneurial, ouais, tendent à aller vers, je pense au PIL par exemple, la structure qui accompagne les jeunes entrepreneurs de l'Université de Lorraine, tendent à développer des modèles économiques, entrepreneuriales ou pas exclusivement, vers l'environnement, vers la prise en compte de la nature, de l'écologie. Il y a une prise de conscience. Plus qu'une prise de conscience, c'est un passage à l'acte quand même aujourd'hui.
Ouais.
C'est pas un peu plus facile aujourd'hui ?
Je sais, ouais, c'est vrai qu'on a, si vous voulez, on n'a pas de problème de recrutement. C'est un indicateur, quoi.
Ouais.
On a peu de problèmes de recrutement parce que les formations se sont multipliées et qu'on a des jeunes bien formés et plein d'enthousiasme qui arrivent et qu'on est heureux d'arriver à les faire travailler. Donc ça peut être un signal plutôt positif.
Parce que vous, si on prend vos trois dates importantes de votre vie, c'est un peu à partir d'un constat.
Oui.
Alors c'était en 1979, on est d'accord, mais
siècle d'avant.
Mais vous étiez en avance en fait, c'est ça qu'on veut dire, quoi. Le 18 mars, vous vous souvenez précisément de la date, c'est ça qui me surprend d'ailleurs, je me demandais pourquoi. Vous avez découvert un site où il y avait des grues qui s'arrêtaient sur l'espace, sur le champ.
Voilà. C'était dans la Meuse, mais pas très loin de la Meurthe-et-Moselle quand même. Et effectivement, c'est un site. Alors, pour en avoir parlé a posteriori avec les agriculteurs, bon, ils avaient l'habitude. Mais pour moi, ornithologue, enfin pour nous ornithologues, c'était un site qu'on connaissait pas. Et donc d'année en année, je l'ai suivi et il s'avérait que c'était effectivement un site d'étape. Et à l'époque en France, il y en avait 4 ou 5, pas plus.
Ah oui.
Ouais. Donc cette importance-là. Et donc moi, j'ai fini par développer entre guillemets une certaine expertise sur les grues, qui m'a valu quelques années après d'être mobilisé pour construire un programme de protection sur ce site-là pour les grues. Et c'est comme ça que je suis rentré comme chargé de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, qui s'appelait Conservatoire des sites lorrains à l'époque.
Mais c'est parti d'une observation,
c'est parti
simple, d'une balade,
d'une observation. Bon, c'est une sortie ornithologique, j'allais pas. Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir ce spectacle-là et de le faire fructifier pour mon itinéraire personnel après, on va dire. Et donc,
arrivé. Ça a vraiment changé votre vie.
Ça a vraiment changé ma vie. C'était vraiment un basculement, quoi. Ouais. Parce que bon, je travaillais déjà sur les oiseaux. Hein, je faisais ma thèse sur des oiseaux, donc j'étais un petit peu quand même déjà la tête dans ce genre de préoccupations. Mais effectivement, ça m'a permis de comme on était peu nombreux à s'intéresser à cet oiseau en France, qui était quand même à l'époque un peu emblématique et menacé, ce qui n'est plus le cas maintenant. Eh bien, on a pu mobiliser des sous, des moyens importants pour monter un programme qui m'a permis de travailler à temps plein pendant 3 ans sur ce site et sur ce programme de protection. Ce qui m'a permis de m'ancrer au conservatoire pendant quelques années supplémentaires, notamment pour travailler sur le programme de la vallée de la Moselle qu'on évoquait tout à l'heure. Et je suis resté donc pendant 7 ans salarié. Et donc ça a changé ma vie professionnellement et je suis rentré vraiment dans le cœur des choses que je souhaitais faire.
Alors, là, vous dites plein de choses importantes, là, Alain. Ça veut dire que un chercheur, ça peut chercher et trouver, ça peut apporter des solutions, et des solutions qui peuvent faire changer un peu la société.
Ouais.
Quand même. C'est vrai. Et à travers même un domaine environnemental,
Bien sûr, à travers
les oiseaux.
Ouais.
Les oiseaux, c'est des indicateurs de la vie. Des indicateurs de l'environnement.
C'est des indicateurs de l'environnement. Dans beaucoup de milieux, effectivement, les oiseaux sont des indicateurs de la bonne santé ou de la mauvaise santé environnementale.
Ouais. Les hirondelles qui ont disparu.
Les hirondelles qui disparaissent. Le petit moineau des champs. Écoutez, ouais. le moineau est une espèce quasi menacée, voire quasi éteinte au Royaume-Uni. Enfin, c'est invraisemblable. On a tous des moineaux encore chez nous, même s'il y en a moins qu'avant. Mais on voit que des espèces aussi banales que celles-ci. Nous envoie des signaux graves quand
vous
même.
Vous avez eu le vent en poupe au moment du Covid, parce que je me souviens de nombreux commentaires de gens qui disent « on réentend les oiseaux
ouais. »
après une période où on s'est arrêté.
Ouais,
on s'est arrêté de vivre d'une certaine façon pour vivre autrement et le chant des oiseaux est revenu et je me souviens de commentaires en milieu urbain où on réentend les oiseaux.
Et on avait moins de bruit aussi ambiant, hein, on circulait moins en voiture, etc. Et donc effectivement des choses... Avez-vous remarqué qu'à Nancy par exemple, les merles chantent plus fort qu'à la campagne? Plus fort. Hein, parce qu'on a des merles dans nos parcs, hein, et bien parce qu'il faut qu'ils couvrent le bruit ambiant pour arriver à se faire entendre des congénères. Hein, donc effectivement, le bruit qu'on fait enfin le bruit qu'on fait, nos activités avec le bruit que ça produit, eh ben perturbe également. Enfin, en tout cas, les oblige à modifier leur comportement.
Beaucoup de boulot pendant 7 ans et beaucoup de bonheur visiblement au sein du conservatoire.
Absolument.
Et puis un départ vers l'université de Lorraine. Donc on reprend un bout de culture scientifique et de partage,
surtout le mot de partage qu'on va partager avec des jeunes gens tout frais sortis des lycées. Un peu qu'on essaye, en tout cas cet enthousiasme pour la nature et pour sa protection, sa mise en valeur, sa gestion, hein, parce qu'on ne fait pas que de la protection de la nature. Hein, et le plaisir maintenant, donc après y avoir passé 21 ans, d'avoir pris une retraite que j'espère mériter, le plaisir de les recroiser parfois. Certains ont été embauchés au conservatoire, d'autres dans d'autres structures, à la région, ailleurs, et de les croiser et d'évoquer ce temps-là qui apparemment ne leur a pas laissé de trop mauvais souvenirs. Voilà.
Donc ça veut dire que vous avez voyagé à travers des lieux de formation
au sein de l'Université
de Lorraine, comme par exemple, donnez-nous un petit peu un panorama.
J'étais affecté à l'UT de Thionville en génie biologique, génie de l'environnement. Et puis j'intervenais à l'université. À l'époque, c'était l'université de Metz. Donc j'intervenais également à la fac des sciences à Metz. Puis après, on est devenu université de Lorraine. Donc je suis intervenu également à Nancy dans différentes formations. Et je suis allé jusqu'en Bavière, mer, me faire des interventions, dont mon allemand et anglais hésitant, pour arriver à partager ça avec les étudiants de la UAS.
Et vous êtes même allé un tout petit peu plus loin pour une troisième date importante dans votre vie.
Alors c'est les grues encore. Hein. Vous voyez, c'est encore les grues, ouais, effectivement. Je suis allé, alors c'était en 2015, alors j'y suis retourné à plusieurs reprises, mais donc après 2015, je suis allé en Sibérie, alors la Sibérie du Sud, c'est-à-dire la Sibérie de la steppe, et non pas la Sibérie de la taïga ou de la toundra, Sibérie de la steppe, aux confins de la Mongolie et de la Chine, et on avait un petit congrès sur les grues, alors on était 80 là-dedans, perdus. J'étais le seul Français, et figurez-vous que le dernier soir, il y a un repas un peu festif, enfin à la russe, hein, ça, pas grand chose à voir avec les repas de gala qu'on a chez nous, mais enfin, c'est de donner avec bon cœur, c'est le principal. Et donc, à la fin de cette soirée, on nous dit, maintenant, écoutez, chaque représentant de chaque pays va chanter une chanson de son pays. J'étais le seul Français, et donc, fatalement, j'étais le seul à pouvoir chanter une chanson française. Et j'étais un petit peu interloqué, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir chanter à ces gens-là? Et il se trouve que, avant de partir en Sibérie, j'avais vu une émission sur le succès qu'avait rencontré Joe Dassin en Russie soviétique, à l'époque de sa carrière. Et donc, je me suis mis à entonner les Champs-Élysées. Et à ma très très grande surprise, l'ensemble quasiment, peut-être moins les Chinois, mais l'ensemble des participants et tous les Russes, tous les Soviétiques, les ex-soviétiques ont repris avec moi le refrain des Champs-Élysées, m'ont demandé de la rechanter, ont souhaité la faire à la guitare ensuite, etc. Enfin, c'est une émotion assez invraisemblable.
Eh bien, on va se quitter justement sur cette fraternité, sur cette joie, sur cette lumière des Champs-Élysées, parce qu'on en a bien besoin. Merci Alain d'être venu en plein préparatif d'un congrès.
Merci à vous.
Faire vibrer au son de l'écologie.